Bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Christophe Éoge Duvalin. Christophe Éoge Duval, bonjour.
Bonjour James et bonjour chers auditeurs.
Vous êtes conseiller d'État, vous êtes aussi metteur en scène de spectacles vivants. Et le 25 octobre 2017, paraît chez Arthège, votre livre intitulé « Vous serez dans la joie ». Et il y a un sous-titre, alors je ne sais pas si c'est votre sous-titre, mais le sous-titre c'est « Le coming out chrétien d'un haut fonctionnaire et quelques réflexions ».
Oui, je crois que c'est sans doute un choix à l'éditeur. Bon, il faut bien faire vendre le livre.
Mais vous le dites vous-même dans votre livre, s'affirmer chrétien, affirmer sa foi aujourd'hui, c'est devenu aussi difficile que pour un homosexuel de faire son coming out ?
Je crois que ça va le devenir.
Ah, ça ne l'est pas encore.
Alors peut-être effectivement aujourd'hui, c'est un peu exagéré d'affirmer que c'est aussi difficile. Quoique, franchement, quoique. C'est sans doute pas difficile de se déclarer chrétien d'une manière, au fond, où... être chrétien, le christianisme n'est pas en véritable conflit avec la société, avec le système, avec la pente dans laquelle on est engagé. Mais à partir du moment où, au contraire, on veut s'accrocher aux aspérités de la pente, où on veut la remonter, alors on s'affirme effectivement un chrétien engagé, un chrétien tout court. Je crois en effet que on est l'objet de colibés, de moqueries, de petites discriminations indirectes, implicites. Il faut savoir réactualiser les persécutions qui, bien sûr, ont eu lieu de manière physique au 1er et jusqu'au 3e siècle de cette ère, sous l'Empire romain. Mais c'est une forme aussi. Je veux dire, quand, par exemple, un pharmacien est licencié et chassé de l'ordre des pharmaciens parce qu'il a refusé... de participer, à la vente, par exemple, de la pilule du lendemain. C'est son choix, c'est son droit de conscience. Pour moi, c'est équivalent à celui d'une persécution.
Il n'a pas le droit, en fait.
Il peut être sanctionné
par l'ordre des pharmaciens.
Absolument, il n'a pas le droit, il est sanctionné, il laisse son travail, son job, etc. C'est une persécution.
Ce que je comprends bien, c'est que si vous voulez, ce que vous voulez dire quand on parle de coming out, si on se dit chrétien, j'ai fait baptiser mes enfants, je me suis marié à l'église, bon, après tout, ça reste une tradition encore dans notre nation française. En revanche, dire Jésus est le Fils de Dieu, de dire les évangiles nous renseignent aujourd'hui, de dire je ne suis pas pour le mariage pour tous, là, on va dire on retourne dans ton église, on va s'arrêter juste au baptême et au mariage. C'est ça, en fait.
Exactement. C'est ça, effectivement. C'est qu'il faut absolument maintenant repousser la foi dans l'ordre de la vie privée, secrète et confidentielle, derrière les églises, et surtout qu'elles n'émettent pas de son, même de cloche, qui, évidemment, à l'extérieur de la rue, apparaît comme une atteinte à la laïcité. Évidemment, toutes choses qui ne sont tout à fait inexactes. Et quand je fais ce parallèle, effectivement, avec les personnes vivant l'homosexualité, je dis de manière un peu provocatrice que j'ai beaucoup d'admiration pour les militants LGBT, parce que quelque part, je trouve qu'ils me rappellent, alors toutes choses égales par ailleurs, évidemment, et tout anachronisme étant exclu, ils me rappellent le courage qu'ont eu les premiers chrétiens sous la Rome antique.
Voilà. C'est-à-dire une minorité,
c'est-à-dire une minorité qui s'affirme. Ouais. Qui a des convictions qui ne sont évidemment pas les miennes, mais qui les met en avant et qui, d'ailleurs, d'une certaine façon, applique presque les mêmes méthodes que celles des premiers chrétiens.
Ouais.
C'est-à-dire, ils sont passés par la phase de la persécution.
Oui, parce qu'il y a eu des lois. La loi sur l'homosexualité, elle a été abrogée il n'y a pas si longtemps que ça.
Ils vont au-delà effectivement, de ces persécutions, ces discriminations, donc qui sont comme dans les premiers chrétiens... cette volonté de témoigner. Et puis ils vont bientôt gagner la phase constantinienne, celui de l'édit de tolérance à leur profit,
comme ça a été le cas pour les chrétiens.
Exactement. C'est pour ça que j'en tire dans ce livre certaines réflexions tout à fait iconoclastes et contraires à la liberté, à la pensée unique, d'y voir presque une religion, concurrente de celle du christianisme, comme il a toujours existé de toute façon, comme la ma théorie ou ma réflexion, c'est de dire que le polythéisme n'a jamais cessé.
Oui.
bien sûr, on va parler d'autres choses. Le temps du spectacle, j'espère.
Oui, on en parlera aussi. Et en tant que conseiller d'État, C'est un risque aussi d'afficher votre foi. On va le voir justement au cours de notre émission. Vous voulez réaffirmer une foi, pas une foi juste de baptême, de mariage ou même que de messe le dimanche. Vous allez plus loin, on va y revenir, Christophe Hoche Duval. Mais en tant que conseiller d'État, du coup, avec le livre, j'ai envie de dire, c'est un risque que vous prenez, surtout quand on verra certaines choses que vous dites dans le livre.
Alors, c'est toujours un risque, évidemment, bien sûr. Mais rendez-moi grâce, en tous les cas, si vous avez pu lire le livre en avance.
Oui, moi, je l'ai lu.
Je ne mets pas en avant mon statut de conseiller d'État.
Non, absolument pas.
Voilà. Je suis conseiller d'État parce qu'il faut bien dire quel est son métier. Je ne suis pas boulanger, je ne suis pas un médecin. Ben oui, je suis conseiller d'État.
Mais est-ce que vous n'avez pas un droit de réserve comme les militaires?
Et effectivement, comme les hauts magistrats, nous sommes tenus au devoir de réserve et... Mais en même temps, nous avons aussi la liberté d'expression, la liberté de penser. À partir du moment où on fait la séparation des deux, où on n'engage pas la maison justice dans laquelle on travaille pour ses opinions ou ses convictions, ben voilà, j'espère en tous les cas que l'esprit de la République et la République, elle est effectivement d'accepter cette séparation et en même temps d'accepter aussi ces différences.
Voilà. Et de toute façon, c'est accepter aussi qu'un conseiller d'État, comme un magistrat, ne juge jamais en totale objectivité.
Ben, c'est
il
vrai,
essaye, et puis il y a le droit, vous me direz.
C'est vrai aussi ce que vous dites, parce que de toute façon, on est un humain, et que la règle de droit est une chose éminemment complexe, évidemment, bien sûr. Elle comporte toujours une part d'interprétation.
Parce que vous, ça joue, hein, le conseiller d'État, c'est plutôt sur tout ce qui est loi administrative. On pourrait peut-être un peu expliquer brièvement auditeurs.
On peut expliquer brièvement.
Parce qu'on en entend parler, hein, voilà. Mais quand il y a des grandes affaires, hein, il y avait eu le cas du Burkini l'été dernier, tout le monde était suspendu à ce qu'allait dire le conseiller d'État.
Tout à fait.
Il y a eu d'autres affaires, bien sûr.
Sans assommer d'un cours d'instruction civique en cet été 2017, vos auditeurs, rapidement, effectivement, donc le Conseil d'État, c'est une institution qui a été refondée sous le consulat, donc par le consul Bonaparte, qui héritait de l'ancien régime, qui avait d'abord une fonction d'être conseil juridique du pouvoir, de l'État, du roi, puis bien sûr après des chefs d'État successifs. Et le Conseil d'État a conservé déjà une part de cette fonction, puisque tous les projets de loi, d'ordonnances, de décrets sont examinés en Conseil d'État. Voilà. Dans des formations qu'on appelle les sections administratives. Donc tous les textes de loi passent avant par le Conseil d'État où ils sont, on va dire, améliorés dans la forme.
Voilà, est-ce qu'une loi peut être rejetée par le Conseil
d'État?
Alors
le Conseil d'État pourrait aller jusqu'à rejeter un projet de loi ou un projet de décret ou certains articles de ce texte. Alors ça prend un nom particulier, on appelle ça une note de rejet dont le gouvernement à ce moment-là est destinataire, qui depuis peu maintenant sont rendus publics. Hein. Et effectivement, par contre, elles ne peuvent pas l'être en termes d'opportunité, elles ne le sont qu'en termes de droit. C'est évidemment, par exemple, un texte législatif qui serait contraire à la Constitution ou contraire à une convention internationale ou un règlement communautaire. Bon, ça n'arrive pas très souvent parce qu'évidemment, bien sûr, le gouvernement a aussi de bons juristes et qui font attention de présenter des textes convenables. Voilà. Enfin, bon, le Conseil d'État a son rôle de plus-value juridique que lui avait dévolu d'ailleurs Napoléon. Tout simplement. Et puis le Conseil d'État s'est construit peu à peu aussi une fonction juridictionnelle d'équivalent de la Cour de cassation, mais pour l'ordre juridictionnel administratif.
Alors la Cour de cassation, hein, c'est ceux qui cassent les jugements qui sont rendus.
La Cour de cassation, elle est sur l'autre rive.
Mais elle est sur le droit, hein, pas sur le...
Elle est sur le droit, effectivement, et elle est surtout de l'ordre judiciaire.
Judiciaire, oui.
Les litiges entre les particuliers. Tandis que le Conseil d'État est au sommet de la juridiction administrative, qui sont les litiges entre les administrés et l'administration. Voilà. Par exemple, je ne suis pas content de permis de construire que M. le maire a délivré à mon voisin, ou alors qu'il ne m'a refusé de me délivrer à moi, et bien je porte au tribunal administratif ce litige, et puis il gravira cour admissive d'appel, et puis peut-être Conseil d'État par la voie de la cassation. Donc ces deux fonctions, que d'ailleurs en interne nous séparons, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas traiter des affaires de l'un et de l'autre. Nous avons des règles déontologiques qui nous préservent précisément des conflits d'intérêts et de la partialité. Eh bien, voilà, ce sont ces règles qui, évidemment, commandent à la fin le devoir de réserve des membres du Conseil d'État.
Parce que donc vous êtes conseiller d'État. Vous commencez votre livre, Christophe Hoche Duval, vous serez dans la joie donc chez Arthège, par... Pour vous, les chrétiens sont devenus des chrétiens Alka-Seltzer, c'est-à-dire les comprimés pour le mal de crâne qui se fondent dans l'eau. Ça veut dire qu'on sait, pour vous, quand vous reprenez cette image du chrétien Alka-Seltzer, le chrétien s'est fondu dans le monde, il reste un petit peu chrétien par particule, c'est ça, mais on ne le voit plus finalement dans le verre.
Oui,
donc on ne voit plus chrétien dans le monde pour
c'est
vous.
C'est un peu ma parabole.
Vous commencez par là et vous le développez beaucoup. C'est pour ça que c'est important d'en parler.
Oui, je le développe et puis effectivement, je m'amuse un petit peu de cette parabole. Après, en nous appelant et en m'appelant moi-même, chrétien Alka-Seltzer, c'est-à-dire finalement des chrétiens qui ont disparu, qui se sont fondus dans le monde, dans le système, dans l'environnement. Là, il ne faut pas se faire voir, il ne faut pas se faire reconnaître, il ne faut pas se dire chrétien. Et puis tout est à l'avenant, c'est-à-dire que il y a des choses qui peut-être au temps de nos grands-parents ont été jugées, antichrétiens. Mm-hmm. Et puis nous, notre temps là,
on a évolué, c'est ça.
Voilà, on a évolué, parfaitement normal, parfaitement assimilable.
Il faut être dans le monde, il faut suivre les courants.
C'est buvo compatible, comme j'explique. Effectivement, comme l'est le comprimé d'Alka-Seltzer, c'est un
c'est
souvenir d'enfance
que j'avais
qui m'amusait beaucoup quand je voyais le spot à la télévision. Vous voyez ce comprimé qui, dans un verre d'eau, se dissout, fait de la bulle, etc. C'est très amusant. Et puis à la fin, il ne reste plus rien. Il peut ne rester plus rien.
Donc
c'est un vrai danger.
On peut se dire, pour vous, les chrétiens peuvent, s'ils continuent à rester à Alka-Seltzer, ils peuvent totalement disparaître parce qu'ils se seront fondus dans le monde.
Et oui, mais c'est un avertissement de Jésus, Jésus Yeshua.
Yeshua, oui, on en reviendra.
On le racontera.
C'est son prénom en araméen, Yeshua.
Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y trouvera-t-il la foi ? C'est lui qui l'a dit. C'est une grave question qui nous interpelle.
Est-ce qu'il retrouvera la foi ? Quand Yeshua, donc Jésus en araméen, reviendra.
Jésus
vous,
en araméen.
Qu'est-ce qui vous a fait réagir, vous ? Parce que vous l'avez dit là, et vous le dites dans votre ouvrage, vous-même, vous étiez un chrétien Alka-Seltzer. Et qu'est-ce qui vous a fait réagir ? Quel a été le déclic pour que vous décidiez de ne plus l'être, Alka-Seltzer ? En prenant des risques, on en a un peu parlé, même de par votre position.
C'est compliqué. Toute vie est une évolution personnelle.
Non, mais il y a eu un déclic chez vous.
Oui, il y a un déclic. Effectivement, c'est vrai que le déclic, il est venu du fait que j'ai assisté comme un manifestant, comme un père de famille, etc., tout à fait banal, à la première manifestation de la Manif pour tous.
Donc la manifestation mariage homosexuel.
C'était une manifestation contre le mariage homosexuel, mm-hmm. C'est qui pour moi était surtout une manifestation contre l'ouverture du droit à l'adoption.
Vous croyez que ça a été compris comme ça ? Ça a vraiment été fait comme ça dès le départ,
manifestation ? Je pense beaucoup plus qu'on l'imagine. Mm-hmm. Peut-être effectivement au premier degré, peut-être pas, et à la seconde couche de réflexion interne, je pense que ça le devient. Enfin, en tout cas,
mais
moi,
pour
ça,
vous, c'était l'objectif.
Moi, ça l'a été.
Oui.
Ah oui, ça l'a
parce
été.
Que pour vous, le mariage homosexuel en soi ne vous pose pas de problème finalement. C'est la filiation qui vous pose un problème.
L'expression, évidemment, le kidnapping de l'expression mariage, si, pose en soi une vraie difficulté sémantique, idéologique, juridique, anthropologique, voilà.
Bon. Juridique aussi.
Juridique, bien sûr. Mmh. Mais on aurait pu éventuellement faire l'impasse si ce mariage avait été déclaré, on va dire, stérile sur le plan des effets de la filiation.
Mmh.
Alors, à partir du moment où, effectivement, quand on est juriste, on devine encore mieux ce que sont les faits des textes, qui étaient l'ouverture de l'adoption. Et puis, comme on savait très bien que l'adoption internationale est une impasse...
Oui, il n'y a pas assez d'enfants.
Rapidement, la mécanique de fabriquer le marché des enfants, celui de la PMA et de la GPA, effectivement, je apportais mon soutien par les pieds et entraînant dans la rue. Et puis ça a été un déclic parce qu'effectivement, je pensais qu'il y avait peut-être une poignée de gens, des réacs quoi, des cathoréacs qui allaient être présents dans cette manif.
Mais qui ne sont pas à Alka-Seltzer finalement, les cathoréacs.
Alors, ceux-là qui ne sont pas à Alka-Seltzer, effectivement, oui. Et du coup, finalement, j'ai découvert ce mouvement intellectuel qui marquera.
Oui, parce que là, les chrétiens se sont affichés, sont descendus dans
la rue.
Alors
pas que, bien sûr.
Il n'y avait pas que des chrétiens.
Il y avait beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes athées. Enfin, moi, personnellement, autour de moi, j'ai vu véritablement cette France, très, 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 très riche de variétés, et même de couleurs politiques. Mais c'est peut-être, il y a peut-être moins de gens de gauche que de gens de droite présents dans la rue, j'en sais rien. Mais ça a été mon déclic. Je me suis dit, à quoi je sers ? Quelle est mon utilité ? Pourquoi le bon Dieu m'a fait naître ? Et puis qu'est-ce qu'il attend de moi ? Voilà. Et ça m'a rejoint, effectivement, c'est vrai, une autre parabole des évangiles, une vraie celle-là, pas celle-là qu'à Salzer, mais la parabole des talents, qui est une parabole qui me tracasse toujours beaucoup. Voilà. On n'a pas été foutu sur terre pour rien foutre. On n'y a pas été mis pour planter notre talent dans la terre et puis le recouvrir et puis se barrer et dire on attend la fin. Et voilà, ça, je me suis dit, mais même en tant que, voilà, en tant que d'une certaine position sociale et professionnelle, qu'est-ce que de moi il attend ? Il attend pas que je prenne ma retraite un jour.
Voilà. C'est pas suffisant,
non,
quoi.
C'est pas possible.
Votre fonction.
Ah, c'est pas possible. Effectivement, c'est, toutes les évangiles sont là, tout Nicodème est là. On doit renaître, on doit tout le temps se remettre en question. Voilà, pour une nouvelle vie à chaque fois, pour sa vie.
Christophe et Hoche Duval, quand on lit votre livre, vous serez dans la joie. On vous sent en colère, justement, par rapport à ce droit à l'enfant. Vous qui êtes dans le droit, là, on sent que ça vous met en colère, ce droit à l'enfant. Hein, vous dites même, priver un enfant de filiation, c'est une saloperie d'État.
Oui,
c'est ce que vous écrivez.
Hein. Oui, absolument. Le mot est sans doute fort, mais il a le mérite de
d'être clair.
D'être clair. voilà, c'est pas seulement. Oui, parce que
c'est l'État qui décide de fabriquer des enfants, voilà, pour les donner dans cette société du moi. C'est la politique de la société du moi.
Dans les fonctions régaliennes de l'État, je crois à peu près universelles au moment où à peu près dans tous les États du monde se créent des États. Il y a les fonctions, bien sûr, de justice, il y a les fonctions de forces armées qui sont reconnues universellement aux États. Et il y a aussi une fonction qui est prégnante, consubstantielle à la création et à la formation des États et à la justification des États, c'est être au service des plus faibles. Voilà. Bon, la veuve de l'orphelin pour trouver une formule un peu
et
amusante.
Et l'enfant, par définition.
Et évidemment, l'État n'a de justification d'ingérence dans la vie privée et familiale que parce qu'à un moment donné, il vient au secours d'une partie faible, peu consentante ou mal consentante. Alors, au deux bouts de la chaîne, bien sûr, les enfants, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. C'est tout le sens de la création de la majorité civile et politique. Et puis, au dernier bout de la chaîne, évidemment, les majeurs en tutelle, les majeurs incapables, les vieillards, les personnes en manque d'autonomie. Donc là, l'État vraiment faillit complètement à une de ses missions fondamentales. Gardien d'une généalogie, très important aussi.
On supprime une histoire, en fait.
Et pourquoi est-ce que l'État, à un moment donné, a repris sous François Ier le service public de l'État civil et après, ça,
on a, qui était avant à l'Église.
Qui était avant à l'Église. C'est parce qu'il prend en main, justement, un devoir d'être gardien de la généalogie de chacun. Bon. Et la généalogie, elle se fonde évidemment sur des filiations qui sont duales, une filiation masculine, une filiation féminine. Et c'est très important. Moi, je n'ai jamais été orphelin. Bon, ma maman a été orpheline. Et je sais, jusqu'à la fin de sa vie, elle est morte à 95 ans, que cette question vous traverse toujours toute votre vie. Toute votre vie. De vie, on se pose la question de son père, on se pose la question de sa mère. Et donc, ce que parfois la nature, cruellement, et ça interroge Dieu, peut vous faire en vous privant d'un père ou d'une mère, eh ben, l'État, la volonté des hommes, l'intervention des hommes ne peut pas le faire. Voilà. On peut accepter et maudire la fatalité, mais qu'en plus la loi des hommes
l'institutionnalise,
le crée, les orphelins par la loi, c'est insupportable. C'est une des raisons, alors je pense qu'elle est vraiment chrétienne de s'engager contre cela, parce que, malheureux scandale, je veux dire, la chose que Jésus Yeshua a le plus condamnée, on pourrait presque se taire, même par l'image d'une condamnation que seul Daesh pourrait inventer, mettre une meule autour du cou d'une personne et le jeter dans la mer. Bon, même presque Daesh l'a fait.
Oui.
Hein. Bon, là, évidemment, Jésus emploie une métaphore, mais une métaphore très forte. Ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux plus petits.
Et surtout pas en l'institutionnalisant.
Et en l'institutionnalisant ou autre chose, ouais.
Parce que vous le dites aussi, hein, Christophe et Hoche Duval, du coup, vous dites, Parce que vous faites tout un parallèle, et on y reviendra, où vous démontrez que les évangiles sont on ne peut plus modernes et qui sont un vrai révélateur de la nature humaine et de la société. Et vous dites, par exemple, et finalement, aujourd'hui, notre société, elle est polythéiste, elle est anthropophage et elle est esclavagiste. Alors, on parlait des enfants. Les enfants, il y a de l'anthropophagie, puisqu'il y a plein de tests sur les embryons, par exemple.
Oui, oui.
Donc ça, c'est de l'anthropophagie pour vous.
Oui, bien sûr.
Mais on va vous expliquer que l'embryon n'est pas un être humain.
Ça, évidemment.
Alors, est-ce que c'est des tournures, justement, de termes et de mots? On change tous les mots, c'est cette pensée unique qui fait qu'on change tous les mots, et finalement, ça arrange tout le monde. Et ben non, on n'est pas anthropophage, puisque de toute façon, même si on jette, hein, on le sait, même pour la procréation médicalement assistée, on fait des tests, donc on en produit beaucoup plus. Hein, d'enfants, hein, en fait, d'embryons. Et il y en a toute une partie qu'on va jeter à la poubelle.
Oui.
C'est ça l'anthropophagie notre siècle.
Tout à fait. Alors, d'abord, effectivement, je crois que la société humaine, voilà, évidemment, c'est une explication que n'arrivent pas à comprendre nos frères agnostiques ou athées, mais voilà, marquée par le péché originel, donc par une imperfection. Et bien, cette imperfection, elle se traduit, et elle se traduira jusqu'à la fin des temps, par une société humaine marquée par la propension à esclavagiser autrui, hein, la propension à le manger, à le cannibaliser, à dévorer autrui, et puis aussi une propension à la dévotion d'un tas de choses, voilà, sauf de Dieu.
L'argent, le pouvoir,
le sexe,
Dionysos,
etc. Et donc ça, ça ne s'arrêtera jamais. Et ça mute, simplement. Ça mute tout le temps. Ne pas le reconnaître, c'est déjà une problématique d'avoir les pieds philosophiquement bien établis sur Terre. On peut ne pas le reconnaître, mais je crois qu'effectivement, c'est une question. Le détourner, c'est aussi une question. C'est le propre de George Orwell d'avoir montré que les totalitarismes aussi cherchent à détourner la vraie nature des choses en changeant le nom. Voilà. Donc quand je dis que la société, oui, apparaît toujours comme cannibale, évidemment, on n'est plus cannibale de chair fraîche, mais on est cannibale d'une autre façon.
En produisant.
Et oui, bien sûr. D'abord,
produisant des enfants.
En détruisant l'homme. Mais même, écoutez, les guerres, c'est cannibale.
Oui, bien sûr.
Hein, on s'autodétruit. Et on ne va pas se manger, bien sûr, ce champ de bataille. Mais enfin, finalement, le résultat, c'est quoi? C'est des piles et des piles et des piles et des piles de cadavres.
Et vous le dites,
c'est l'anthropophagie.
Et vous dites d'ailleurs que l'avortement est la première cause de mortalité dans le monde.
Oui, alors, évidemment. Ce sujet, ce débat, on parlait tout à l'heure des chrétiens à Kasselzer, voilà une chose qui est un débat qu'on ne peut plus avoir, même au sein même des chrétiens. Et pour aussi une bonne raison malheureuse, c'est qu'il y a 230 000 jeunes femmes ou femmes qui avortent tous les ans, y en a un bon paquet aussi qui sont débaptisées. Et donc, le ver étant dans le fruit, c'est un débat qu'on ne peut plus avoir même en interne. Parce qu'on va toujours avoir un prêtre ou des paroissiens qui vont vous dire oui, mais ceci, mais cela, mais bon.
C'est vrai que c'est difficile de juger d'un point de vue général.
En arrière-plan, j'ai eu ma fille, ou moi j'en étais peut-être passé, ou le prêtre. Bon, bref, voilà. Donc c'est un sujet dramatique, absolument dramatique, mais qu'on ne peut plus éluder parce qu'on arrive à un seuil astronomique, industriel, mécanique. L'avortement a toujours existé. Dans le livre de Job,
oui, on en parle, oui.
Il y a cette allusion à l'avorton. Donc, ça a toujours existé. Sauf qu'effectivement, le diabolisme du XXe et du XXIe siècle, c'est l'échelle industrielle qu'elle fait prendre au phénomène. Et donc, à un moment donné, quand on arrive effectivement à la constatation du chiffre qu'il y a 50 millions d'avortements par an dans le monde... C'est phénoménal. Si on compare, on dit, tiens, la Corée du Sud, c'est 50 millions d'habitants. Il y a le fou de Corée du Nord qui a envoyé ses bombes atomiques sur la Corée du Sud, il les a pulvérisées. Voilà. Il y aurait des réactions mondiales. 50 millions d'habitants effacer la surface de la Terre. Il y aurait des réactions quand même un petit peu. Hein.
Ouais, c'est
clair. On fait la même chose de manière... Alors évidemment, parce qu'on nie l'existence d'une nature humaine. Voilà. À la limite, tranchons-la cette question.
Ah oui, mais même les biologistes ne sont pas totalement, d'accord. Et puis, il y a les termes aussi hein, qui sont importants. Les mots ont un sens, on le sait, en communication. Et vous le notez plusieurs fois dans votre livre. On parle de PMA, GPA. Nous, on a parlé d'avortement, mais on parle d'IVG. On pourrait même ajouter SDF. Oui, tout ça, oui. Ça déshumanise par des cycles. Moi, je veux bien qu'on parle de l'URSSAF, mais je préférais qu'on parle de personnes sans domicile. Parce que là, il y a une personne.
Absolument.
IVG, pareil, ça devient, j'ai fait une IVG.
Voilà, c'est effectivement, c'est ce que je faisais allusion tout à l'heure à George Orwell. C'est cette transformation des mots, du sens des mots. Et évidemment, bien sûr, ça pose réflexion.
Ce que je vous propose, Christophe et Hoche Duval, on a beaucoup de choses à se dire, c'est qu'on se retrouve demain pour la suite des dieux dans tout ça. Je rappelle que vous êtes conseiller d'État, metteur en scène de spectacles vivants, on en parlera.
Et amateur, évidemment, bien sûr.
Oui, parce que votre métier, c'est conseiller d'État.
Ne croyons pas que c'est mon métier.
Metteur en scène de spectacles vivants, donc metteur en scène amateur de spectacles vivants, pour le coup. Et donc le 25 octobre, paraît chez Arthège, votre livre intitulé « Vous serez dans la joie, le coming out chrétien d'un haut fonctionnaire et quelques réflexions et les droits d'auteur ». Du livre sont reversés à l'association Spectacle Yeshua. On en parlera du spectacle vivant demain. À demain, Christophe.
Merci, à demain.